Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audiolib présente Mona Lisa disjoncte de William Gibson. Traduit de l'anglais par Laurent Kessier. Lu par Nicolas Jermag. Pour ma sœur, Fran Gibson, avec stupéfaction et tout mon amour. Chapitre 1. Le brouillard. Un secrétaire vêtu de noir était venu lui apporter le fantôme. Cadeau d'adieu de son père, dans une salle d'embarquement de Narita. Pendant les deux premières heures de vol vers Londres, il resta dans son sac à main, oublié, rectangle lisse et sombre avec l'omniprésent logo Maas Neotech gravé sur un côté et l'autre face joliment incurvée pour correspondre à la paume de l'utilisateur. Elle se redressa bien droite dans son siège en première classe, le visage composé en un petit masque de froideur, imitant l'expression la plus caractéristique de sa défunte mère. Les fauteuils alentour étaient vides, son père avait acheté l'espace. Elle refusa le repas que le steward anxieux lui proposa. Les places libres lui faisaient peur, preuve de la fortune et du pouvoir de son père. Il hésita, puis s'inclina et s'en alla. Un instant, elle laissa un sourire percer le masque de sa mère. « Des fantômes », se dit-elle plus tard, quelque part au-dessus de l'Allemagne, en regardant le cuir du siège près d'elle. Son père s'occupait bien de ces fantômes. Il y avait aussi des fantômes derrière le hublot, des fantômes dans la stratosphère de l'Europe hivernale, des images partielles qui commençaient à apparaître si elle laissait ses yeux se perdre dans le vague. Sa mère, au parc d'Ueno, fragile visage sous le soleil de septembre.
Les grues, Kumi, regarde les grues.
Et Kumiko avait scruté par-delà l'étang de Shinobatsu et n'avait rien vu. Pas la moindre grue. Uniquement quelques points noirs sautillants qui devaient être des corbeaux. L'eau était lisse comme de la soie, de la couleur du plomb. Et de pâles hologrammes scintillaient, indistincts au-dessus d'une lointaine rangée de cibles de tir à l'arc. Mais Kumiko verrait souvent les grues plus tard, en rêve. Il s'agissait d'origami, forme pointue pliée à partir de plaques de néon, oiseaux raides et brillants parcourant le paysage lunaire de la folie de sa mère. Elle se rappelait son père, son peignoir sombre, ouvert sur un groupe de dragons tatoués, avachi derrière l'immense plateau en ébène de son bureau, ses yeux brillants, dénués d'expression, comme ceux d'une poupée de porcelaine. Ta mère est morte. Tu comprends? Et tout autour d'elle, les flaques d'ombre dans son bureau, les ténèbres anguleuses. La main tremblante de son père qui s'avançait vers elle, dans le cercle lumineux de la lampe. La manche du peignoir glissant pour dévoiler une Rolex en or et d'autres dragons aux crinières tourbillonnantes, devenant des vagues sombres et bien définies autour de son poignet. Sa main qui la désignait. Tu comprends? Elle n'avait pas répondu, mais s'était enfuie dans une de ses cachettes secrètes, le terrier des plus petites machines ménagères. Elles avaient cliqueté autour d'elle toute la nuit, la scannant fréquemment avec des rayons laser roses, jusqu'à ce que son père, en pestant le whisky et les cigarettes du Nil, la retrouve et la porte jusqu'à sa chambre au deuxième étage de l'appartement. Elle se rappelait les semaines qui avaient suivi, des jours engourdis passés le plus souvent en compagnie d'un quelconque secrétaire en tenue noire, des hommes prudents au sourire artificiel et au parapluie bien replié. L'un d'entre eux, le plus jeune et le moins vigilant, lui avait offert sur un trottoir bondé de Ginza, à l'ombre de l'horloge Hattori, une démonstration de kendo improvisé, serpentant avec aisance entre des filles surprises en plein shopping et des touristes aux yeux écarquillés, le parapluie noir décrivant des arcs flous et inoffensifs tirés de cet art antique et codifié. Kumiko avait alors souri de son propre sourire et ainsi brisé le masque funéraire, ce qui avait aussitôt renvoyé sa culpabilité avec plus de force et de violence à l'endroit de son cœur où résidait déjà sa honte et son indignité. Mais la plupart du temps, les secrétaires l'emmenaient faire des emplettes dans un grand magasin après l'autre ou dans des dizaines de boutiques de Shinjuku recommandées par le guide Michelin en plastique bleu qui s'exprimait dans un japonais de touriste guindé. Elle n'achetait que des choses affreuses, affreuses et hors de prix. Et des secrétaires marchaient près d'elle, impassibles, les sacs luisant dans leurs mains rugueuses. Chaque après-midi, de retour dans l'appartement de son père, il posait soigneusement les cabas dans sa chambre, où ils restaient intacts jusqu'à ce que les femmes de ménage les enlèvent. Et au cours de la 7e semaine, la veille de son 13e anniversaire, il fut décidé que Kumiko partirait à Londres. « Tu seras reçu dans la demeure de mon kobun », avait dit son père.
« Mais je ne veux pas y aller », s'était-elle défendue en affichant le sourire de sa mère.
« Tu n'as pas le choix », avait-il répliqué en détournant les yeux vers l'obscurité de son bureau. « Nous avons des problèmes. Tu seras en sécurité à Londres. »
« Et je reviendrai quand ?»
Mais son père n'avait pas répondu. Elle s'était inclinée et avait quitté la pièce sans se départir du sourire de sa mère. Le fantôme se réveilla au contact de Kumiko, tandis qu'ils entamaient l'approche vers Heathrow. La 51e génération de Biopus Maas Neotech fit apparaître une silhouette indistincte sur le siège près d'elle. Un garçon tiré d'une scène de chasse fanée, les jambes croisées avec désinvolture, en pantalon brun, et en bottes d'équitation.
« Salut !»
dit le fantôme. Kumiko cligna des paupières et ouvrit la main. Le garçon tremblota et disparut. Elle baissa le regard sur le petit appareil doux dans sa paume et replia lentement les doigts.
« Salut !» j'ai dit.
Reprit-il.
« Je m'appelle Colin. Et vous ?»
Elle l'observa fixement. Il avait des yeux brumeux vert foncé et un front pâle et lisse sous une mèche noire rebelle. Elle voyait les sièges de l'autre côté de l'allée à travers l'éclat de ses dents.
« Si c'est un peu trop spectral pour vous, » dit-il en souriant, « on peut monter la résolution. » Et il apparut un instant bien trop défini et réel, les poils sur les revers de son manteau sombre d'une netteté hallucinatoire. « Mais ça décharge la batterie. » dit-il en retournant à son état antérieur. « Je n'ai pas saisi votre nom. »
De nouveau ce sourire.
« Tu n'es pas réel, » dit-elle sur un ton sévère.
Il haussa les épaules.
« Inutile de parler à voix haute, mademoiselle. Les autres passagers vont s'imaginer que vous êtes un peu bizarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut subvocaliser. Je capte tout à travers la peau. »
Il décroisa les jambes et s'étira, les mains jointes derrière la tête.
« Votre ceinture, mademoiselle. Je n'ai pas besoin de m'attacher, évidemment, puisque, comme vous l'avez souligné, je ne suis pas réelle. »
Kumiko fronça les sourcils et jeta l'appareil sur les genoux du fantôme qui disparut. Elle boucla sa ceinture, regarda l'objet, hésita, puis le ramassa.
« C'est donc votre premier séjour à Londres ?»
demanda-t-il en apparaissant aux limites de son champ de vision. Elle acquiesça malgré elle.
« Vous aimez bien l'avion ? Ça ne vous fait pas peur ?»
Elle secoua la tête, se sentant ridicule.
« Peu importe, » dit le fantôme.
Je vais m'occuper de vous. Heathrow, dans 3 minutes, quelqu'un vient vous chercher à la descente de l'appareil.
L'associé de mon père, répondit-elle en japonais.
Le spectre sourit.
Alors, je suis sûr que vous serez entre de bonnes mains.
Il lui adressa un clin d'œil.
Je n'ai pas l'air d'être doué pour les langues, hein, comme ça.
Kumiko ferma les paupières et le fantôme se mit à lui parler en chuchotant de l'archéologie d'Heathrow, du néolithique et de l'âge de fer, de poterie et d'outils.
« Mademoiselle Yanaka, Kumiko Yanaka. »
L'anglais se dressait imposant devant elle, de lourds plis de laine sombre recouvrant sa carrure de gaijin. Ses petits yeux noirs l'observaient mollement derrière des lunettes à la monture en acier. Son nez semblait avoir été complètement écrasé et jamais remis en place. Le peu de cheveux gris qui lui restait était coupé très court et il portait des mitaines en laine noire effilochée.
« Moi, je m'appelle Pétale »,
dit-il comme si cela devait immédiatement la rassurer.
Pétale surnommait la ville « Smoke ».
Kumiko frissonna sur le cuir rouge et froid, à travers la vitre de la vieille Jaguar. Elle regarda la neige qui tombait pour fondre sur la route que Pétale appelait « M4 ». La couleur avait déserté le ciel de la fin d'après-midi. Il conduisait en silence, concentré, les lèvres pincées comme s'il s'apprêtait à siffler. La circulation paraissait d'une fluidité ridicule à des yeux tokyoïtes. Ils doublèrent un véhicule de transport autonome Eurotrans, son avant arrondi, couvert de détecteurs et de rangées de phares. Malgré la vitesse de la Jaguar, Kumiko avait l'étrange impression de ne pas avancer. Les particules de Londres s'accumulèrent peu à peu autour d'elle. Des murs de briques humides, des arches de béton, des grilles en fer forgé noir. La ville commença à se dessiner sous son regard. Sortie de la M4, la Jaguar, arrêtée à une intersection, elle aperçut des visages à travers la neige, figures rougies de gaijin au-dessus d'habits sombres, menton engoncé dans des écharpes, talons de femmes qui cliquetaient dans les flaques argentées. Les rangées de boutiques et de maisons lui rappelèrent les accessoires magnifiquement détaillés exposés autour d'une maquette de locomotive à Osaka, dans la galerie d'un vendeur d'antiquités européennes. Cela n'avait rien à voir avec Tokyo où l'on s'occupait, avec un soin maladif, de tout ce qui venait du passé. L'histoire y était devenue quantifiable et rare, classifiée par le gouvernement et préservée par des lois et des financements privés. Ici, elle semblait appartenir à la fibre même des choses, comme si la ville n'était qu'une unique excroissance de pierres et de briques, d'innombrables strates séculaires de messages et de sens, créées au fil du temps sous l'influence de l'ADN, désormais quasi indéchiffrable du commerce et de l'Empire.
« Faut excuser Swain. Désolé qu'il n'ait pas pu vous accueillir en personne, » dit l'homme nommé Pétale.
Kumiko avait moins de mal avec son accent qu'avec sa façon de structurer ses phrases. Elle confondit d'abord ses excuses avec un ordre. Elle envisagea de faire appel au fantôme, mais renonça.
« Swain ? » s'enquit-elle. « C'est chez Swain que je vais ?»
Les yeux de Pétale la trouvèrent dans le rétroviseur.
« Roger Swain, votre père ne vous a rien dit ?»«
Non. »«
Ah !» il hocha la tête.
Il semble évident que M. Yanaka fait très attention à la sécurité, un homme de son rang. Il poussa un profond soupir.
Désolé pour le chauffage. Le garage était censé avoir réglé le problème.
Êtes-vous un des secrétaires de M. Swain ?
Demanda-t-elle en s'adressant au bourrelet de chair mal rasé qui dépassait du col de l'épais manteau sombre.
Son secrétaire ? Il parut y réfléchir.
Non,
finit-il par répondre. Il leur fit traverser un rond-point, puis ils passèrent devant des stores métalliques luisants et l'afflux matinal de piétons.
Vous avez déjà mangé ? Ils vous ont donné à manger dans l'avion ?
Je n'avais pas faim,
consciente du masque de sa mère.
Il y aura de quoi chez Swain. Il adore la nourriture japonaise.
Il fit claquer sa langue d'une drôle de façon et lui rendit son regard. Elle laissa le sien se perdre au-delà, sur le baiser des flocons de neige et les essuie-glaces qui les effaçaient. La résidence de Swain à Notting Hill était composée de trois maisons interconnectées quelque part au milieu d'un ensemble enneigé de parcs, de rues arrondies et d'impasses. Pétale, deux des valises de Kumiko dans chaque main, lui expliqua que le numéro 17 était également l'entrée principale des numéros 16 et 18. « Inutile de frapper ici », dit-il avec un geste maladroit dû au lourd bagage pour indiquer la peinture rouge brillante et la poignée en cuivre lustré de la porte du 16. « Il n'y a que 50 cm de fer au béton derrière. » Elle regarda la rue en forme de croissant. Ses façades presque identiques qui rapetissaient le long de sa douce courbe. La neige semblait désormais plus épaisse et la lueur saumon des lampes à sodium éclairait le ciel lisse. La voie était déserte et le manteau blanc immaculé. Une impression étrangère surnageait dans l'air froid, une odeur, légère mais omniprésente, de brûlé, de carburant archaïque. Les chaussures de Pétale laissèrent de grosses empreintes bien délimitées. Il s'agissait de Richelieu noir en daim à la pointe étroite et aux semelles crantées de plastique rouge, très épaisse. Elle suivit ses traces en frissonnant, jusqu'aux marches grises qui menaient au numéro 17. « C'est moi !» dit-il à la porte peinte en noir. « Allez !» Puis il soupira, posa les quatre valises dans la neige, retira la mitaine de sa main droite et appuya la paume contre un cercle d'acier brillant encastré dans un panneau de la porte. Kumiko crut entendre un léger grincement, un bourdonnement qui monta dans les aigus avant de s'évanouir, puis la porte vibra sous l'impact étouffé des verrous magnétiques qui se retiraient. « Vous l'avez appelé Smoke ?» dit-elle lorsqu'il tendit la main vers la poignée. « La ville !» Il s'arrêta. « Smoke ?» dit-il. « Oui, le brouillard !» Puis il ouvrit la porte vers la chaleur et la lumière. C'est une vieille expression, une sorte de surnom. Il ramassa ses bagages et pénétra dans l'entrée à la moquette bleue et au lambris peint en blanc. Elle le suivit, la porte se referma derrière elle et les verrous se remirent en place. Une estampe au cadre d'acajou était accrochée au-dessus du bois. Des chevaux dans un champ, de petites silhouettes épurées en manteau rouge. Colline, le fantôme de la puce doit vivre là-bas, se dit-elle. Pétale avait reposé ses valises. De minuscules morceaux de neige compacts parsemaient la moquette bleue. Il ouvrit alors une autre porte et dévoila une cage en acier doré. Puis il poussa la grille avec un bruit métallique. Elle observa l'espace clos, déconcertée. « L'ascenseur, expliqua-t-il. Il n'y a pas de place pour vos affaires, je vais faire un second voyage. » Malgré son âge apparent, la cabine monta sans à-coups lorsque Pétale appuya sur un bouton de porcelaine blanche de son index épais. Kumiko dut se serrer contre lui. Il sentait la laine humide et un après-rasage floral. « Nous vous avons installé à l'étage, précisa-t-il en la conduisant le long d'un couloir étroit, car nous nous disions que vous apprécieriez le calme. » Il ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer.
« J'espère que ça conviendra. »
Il retira ses lunettes et les frotta énergiquement avec un mouchoir froissé. « Je vais chercher vos valises. » Après son départ, Kumiko marcha lentement autour de l'immense baignoire en marbre noir qui dominait le centre de la pièce basse et encombrée. Deux minces lucarnes entouraient le plus grand lit qu'elle ait jamais vu. Au-dessus du matelas, de petites lumières ajustables intégrées au miroir lui rappelèrent les lampes de lecture d'un avion. Elle s'arrêta près de la baignoire pour toucher le cou arrondi d'un cygne plaqué or qui servait de bec de robinet. Ses ailes déployées formaient les poignées. La chambre avait une atmosphère chaude et calme, et pendant un instant, la présence de sa mère parut l'emplir. Douloureux brouillard. Pétale s'éclaircit la voix dans l'entrée. « Bon, » dit-il en débarquant avec ses bagages, « Tout va bien. Vous n'avez toujours pas faim, non ? Je vous laisse vous installer. » Il disposa ses valises près du lit. « Si vous voulez manger, appelez. » Il lui montra un antique téléphone ouvragé avec un micro et des écouteurs en cuivre incurvé ainsi qu'une poignée en ivoire sculpté.
Il suffit de décrocher, pas besoin de composer de numéros. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner quand vous le désirez. Demandez à n'importe qui, on vous indiquera où il faut aller. Vous pourrez alors rencontrer Swain. L'impression de sa mère avait disparu lorsqu'il était arrivé. Elle tenta de la ressentir de nouveau quand il lui souhaita bonne nuit et referma la porte. Mais elle n'était plus là. Elle resta longtemps près de la baignoire, à caresser le métal lisse du col de cygne froid.